Les djihadistes français Jean-Michel et Fabien Klein ont été visés par une frappe de la coalition en Syrie. Fabien Klein est annoncé mort. Nous reviendrons sur la traque menée par la coalition internationale. Dans ce journal aussi, nous irons en Espagne où le gouvernement a conclu un accord avec le Maroc. Et ce pour ne pas accueillir tous les migrants secourus en mer Méditerranée. Le mystère des bébés nés sans main dans plusieurs départements français. Hier, une réunion d'information avait lieu. Nous y étions. Et puis, retour sur l'audition d'Alain Juppé à l'Assemblée hier également. Il était auditionné pour intégrer le Conseil constitutionnel. Nomination validée. C'était l'un des djihadistes les plus recherchés. Fabien Klein, la voix française du groupe État islamique, a donc été tué mercredi après-midi en Syrie. Radio France vous le révélait hier. Fabien Klein a été neutralisé par une frappe aérienne de la coalition. Il était à Baghouz, dernier bastion de Daesh. Son frère était présent également, Jean-Michel Klein, lui est grièvement blessé. Les deux hommes faisaient l'objet d'un mandat d'arrêt depuis le mois de juin dernier, depuis presque un an. Ils avaient enregistré le message audio revendiquant les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Comment ont-ils été traqués, ciblés? Dans le cas de la Syrie, c'est le fruit d'une coopération entre pays avec l'appui de moyens technologiques, Nathalie Hernandez.
Une traque comme celle des frères Klein peut prendre des mois. Les djihadistes vivent dans la clandestinité et se déplacent entourés de femmes et d'enfants pour ne pas être ciblés. Pour arriver à les repérer, la France et les États-Unis coopèrent depuis le début contre l'organisation terroriste. Les deux pays échangent des informations, informations qui sont recueillies grâce à des drones de surveillance capables de fournir des données GPS et des images très détaillées. On arrive par exemple à distinguer la couleur d'un véhicule, voire de vêtements. Autre source précieuse, les téléphones portables qui donnent la position de la personne et permettent de capter les échanges ou les conversations. Et puis il y a les sources humaines, ce peut être des habitants, des civils qui fuient l'enclave ou encore des agents infiltrés, des clandestins. Ils peuvent livrer des éléments déterminants. Une fois un maximum de données rassemblées, un drone va survoler la zone où se trouvent les djihadistes. L'appareil de 5 tonnes peut alors voler pendant 24 heures sans discontinuer entre 3000 et 8000 mètres d'altitude avant de frapper.
C'était les précisions de Nathalie Hernandez pour France Culture. La tension monte encore au Venezuela autour d'une éventuelle arrivée d'aide humanitaire. Le président vénézuélien en exercice refuse cette aide. Nicolas Maduro annonce d'ailleurs la fermeture de la frontière avec le Brésil et il menace de faire pareil près de la Colombie. L'opposant Juan Guaido a lui quitté Caracas hier accompagné d'environ 80 députés. Il souhaite rejoindre la frontière colombienne pour y faire entrer l'aide humanitaire à partir de demain. Ce vendredi aura lieu également un duel de concert à cette frontière colombienne. L'un pour demander l'entrée de l'aide humanitaire américaine au Venezuela. L'autre pour dénoncer une agression des États-Unis dans le pays. L'Espagne a conclu un accord avec le Maroc pour ne pas accueillir tous les migrants sauvés en mer. Après avoir donné des gages d'ouverture en accueillant l'Aquarius et ses migrants à Valence, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez cherche maintenant des solutions plus durables. Il s'est donc tourné vers Rabat, Mathieu de Taillac.
Jusqu'à présent, les migrants secourus en Méditerranée par l'Espagne étaient systématiquement débarqués dans des ports du pays, même s'ils avaient été recueillis à proximité des côtes africaines. Pour la première fois, les services de secours espagnols auront une autre possibilité. Selon le journal El País, Madrid est arrivé à un accord avec Rabat. Lorsque les sauveteurs en mer participeront à des opérations conjointes avec la marine marocaine, et à condition que le port sûr le plus proche ne soit pas espagnol, ils pourront déposer les personnes secourues dans des ports marocains. Ces nouvelles dispositions s'inscrivent dans le cadre d'une stratégie du gouvernement socialiste de Pedro Sanchez pour réduire de moitié les entrées irrégulières de migrants après une année 2018 record marquée par plus de 60 000 arrivées de ce type. Ce nouveau plan répond à l'inquiétude nouvelle et croissante des Espagnols face au phénomène migratoire et à l'émergence du parti d'extrême droite Vox. Rabat est particulièrement bien disposé à l'égard de Madrid qui vient de convaincre l'Union européenne de débourser 140 millions d'euros pour aider le Maroc à faire face aux flux migratoires à ses frontières. La mesure ne fait toutefois pas l'unanimité. Certains professionnels des opérations de sauvetage espagnoles se souviennent de migrants qui s'étaient mutinés quand ils avaient appris que l'équipage comptait les débarquer au Maroc.
Pour secourir des migrants en mer Méditerranée encore, la France, elle, de son côté, a annoncé hier qu'elle allait livrer 6 embarcations rapides à la marine libyenne. Cela pour lutter contre l'immigration clandestine, précise le ministère des Armées. Il ne jette pas l'éponge et dit chercher une solution. Le patron d'Altifort espère tout de même pouvoir reprendre l'usine d'Ascoval. Et ce, malgré un premier refus de financement qu'il a admis hier. Le ministère de l'Économie cherche de son côté un nouveau repreneur pour Ascoval. À Saint-Saulve, dans le Nord, la scierie emploie 281 salariés. Le plan de reprise doit être de nouveau examiné la semaine prochaine au tribunal de grande instance de Strasbourg. Comment lever le mystère des bébés nés sans main à Guidel en Bretagne, dans l'Ain également ou dans les Pays de la Loire? Pour la première fois hier, des familles ont pu participer à une réunion du comité d'orientation et de soutien. Il s'agit d'un des deux cercles de réflexion installés par l'État pour relancer les enquêtes sur le terrain. Ces familles ont au moins été satisfaites hier, assez rassurées de voir que les autorités prenaient leur cas au sérieux, Tara Schlegel.
Quatre familles ont fait le déplacement pour renouer le dialogue et il y a eu des progrès, reconnaît Samuel, le papa d'Aliénor qui vit en Bretagne.
Le côté positif, c'est qu'effectivement, il y a eu enfin des interlocuteurs, ce qui est quand même pas mal. Avant, c'était des boîtes mail ou des boîtes postales, donc à partir de là, c'est déjà une avancée. Et puis d'autre part, on a pu rencontrer effectivement d'autres personnes avec lesquelles on a pu échanger. On a l'impression déjà de ne pas être seul, de ne pas être paranoïaque, parce que finalement, il y a d'autres personnes qui ont un peu le même point de vue sur la situation que nous.
Aux côtés des familles, il y avait aussi les registres qui surveillent les malformations de leurs enfants. Emmanuel Amar pilote celui de l'Ain et elle s'est félicitée qu'on s'intéresse désormais aux malformations animales, une question qu'elle avait soulevée il y a longtemps.
Les malformations chez les veaux, chez les animaux, qui étaient totalement niées. Et là, maintenant, on a quand même parlé d'une recherche de l'ANSES vis-à-vis des bovins. Donc, ça veut bien dire qu'on les prend en compte, quoi.
Quelques progrès, donc, mais deux bémols à cette première réunion, disent les parents. Isabelle Grassin, l'une des mamans, regrette de ne pas pouvoir dialoguer directement avec l'autre comité créé en parallèle.
Les membres du comité d'experts scientifiques resteront anonymes jusqu'au mois de juin, en tout cas la publication de leurs résultats.
On vous a dit pourquoi ?
Pour garantir un travail de qualité et qu'il n'y ait aucune pression extérieure.
Et puis, autre déception relevée par Samuel, cette fois, le patron de Santé publique France s'est rapidement éclipsé.
Il a participé au discours introductif avec le directeur de l'ANSES et puis le président du comité d'orientation et de suivi. Et ensuite, il est parti, donc c'est vrai que je trouvais ça un peu dommage parce que finalement, c'était le seul interlocuteur que nous, on connaissait.
Les parents espèrent avoir l'occasion de lui poser toutes leurs questions lors de la prochaine réunion en avril.
Tara Schlegel qui a enquêté sur ce mystère des bébés sans main, une alerte longtemps ignorée. C'est un grand reportage et un article internet détaillé à retrouver sur franceculture.fr. La députée La République En Marche, Agnès Thil, dit n'avoir reçu qu'une simple mise en garde de la part de son parti. Plusieurs de ses collègues avaient pourtant demandé son exclusion. Agnès Thil avait estimé il y a quelques semaines que l'ouverture de la PMA pour toutes favorise, je cite, l'éclosion d'écoles coraniques. Elle reçoit donc une mise en garde de La République En Marche et s'engage à faire attention à ses propos. Lui pourrait bien siéger au Conseil constitutionnel. Il pourra bien siéger au Conseil constitutionnel. Alain Juppé a été auditionné hier par la Commission des lois à l'Assemblée nationale et les députés ont validé sa nomination à 21 voix contre 4. Rosalie Lafarge était présente auprès du maire de Bordeaux.
Ému de retrouver les salles de l'Assemblée, mais un peu stressé de son propre aveu, Alain Juppé a accompli son devoir, convaincre les députés de la Commission des lois de la légitimité de sa nomination au Conseil constitutionnel. Alors qu'il le reconnaît d'emblée, la proposition de Richard Ferrand l'a franchement surpris.
Elle m'a surpris parce que je me suis d'abord demandé si j'en étais digne.
L'ancien Premier ministre s'est demandé si sa condamnation pénale pouvait constituer un obstacle juridique.
Monsieur Ferrand m'a rappelé pour me dire qu'il n'y avait pas d'empêchement juridique. Mais il y a évidemment dans tout cela une dimension morale que je ne veux pas éluder. J'ai eu ce débat en bonne âme et conscience. J'ai purgé ma peine et peut-être le temps peut-il donner droit à l'oubli.
Et Alain Juppé de rappeler que les électeurs bordelais lui ont fait confiance 3 fois. Il y a vu une forme de pardon, mettant en avant sa fine connaissance des rouages du pouvoir local, national, international et sa grande pratique de la collégialité à Bordeaux. Il s'est engagé à la neutralité et l'esprit de modération. Du vent pour le député de la France Insoumise, Hugo Bernalicis.
C'est Vidocq, en fait, qui rentre au Conseil constitutionnel. Il va être dans la continuité de ce que produit aujourd'hui le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout indépendant, pas du tout neutre, comme on veut bien nous le faire croire, mais des gens qui maintiennent l'ordre établi, alors même que s'en sont peu souciés de l'ordre, en tout cas, ou de la loi, pendant leur vie politique.
Mais désormais validée par les députés, la nomination d'Alain Juppé va pouvoir être rapidement publiée au Journal officiel. Ne reste plus que la prestation de serment devant le président de la République. Les sages s'y engagent à exercer leurs fonctions en toute impartialité et à ne prendre aucune position publique pendant leurs 9 ans de mandat.
Alain Juppé deviendra donc sage à la place de Lionel Jospin à partir de début mars. Enfin, c'est fait, la première sonde lunaire israélienne a décollé cette nuit de Cap Canaveral. Si l'alunissage réussit, d'où le seront dans 7 semaines, eh bien l'État hébreu deviendra le 4e pays à avoir atterri sur la Lune. Une Lune bien visible au petit matin ce vendredi en l'absence de gros nuages. Le temps s'annonce toujours ensoleillé avec 5 degrés à Paris ce matin, 8 à Strasbourg, Rennes et Amiens, jusqu'à 16 degrés à Perpignan.